Alain Weinstein, bonsoir. Eh bien, c'est du jour au lendemain, mais c'est pas tout à fait du jour au lendemain, car nous avons quitté la cellule monacale, qui est notre studio, pour un palais festoyant, le palais de Tokyo. Et pourtant, les choses se passent toujours de la même façon. On entend le générique. Je dis mon nom, bonsoir. Ensuite, j'annonce mon invité et son livre. Ce soir, Yannick Hennel pour Les Renards Pâles, le roman qu'il publie chez Gallimard dans la collection L'Infini. Ensuite, je vais dire une petite phrase, extraite du livre. Alors, pour m'y retrouver, en direct ou pas, je mets toujours un post-it de couleur, comme ça j'ai la page aussitôt sous les yeux, et je lis la petite phrase. Il me laissa seul avec le livre. J'en manipulais fiévreusement les pages, comme dans une extase. Il me semblait que j'avais toujours circulé entre ces phrases, et que mon destin se jouait là. J'étais entraîné dans une histoire millénaire qui était aussi la plus jeune des histoires, celle d'un avenir qui me semblait vivable, où la politique avait de nouveau un sens. Le vieux rêve occidental de la révolution avait moisi, et j'entrevoyais que si quelque chose devait avoir lieu, si un réveil était possible, c'était à partir du renard. Voilà, après la petite phrase, je casse par une musique. Et quelquefois, comme ce soir par exemple, j'aimerais bien pouvoir écouter la musique jusqu'au bout. Mais il y a une émission à faire et une première question à poser. C'est très important la première question parce que quelquefois, le sort de l'émission en dépend. Alors... Je me suis beaucoup interrogé. Quelle première question poser à Yannick Hennel à propos de ce roman, Les Renards Pâles ? Et puis, je me suis dit qu'au fond, il fallait partir du lieu où nous sommes, le palais de Tokyo, qui commençait à être un haut lieu de l'art contemporain. Or, l'art contemporain fait une apparition dans votre livre, Yannick Hennel. Une apparition d'ailleurs pas forcément séduisante. Ça se passe au Zorba, qui lui est un haut lieu de la jeunesse branchée bellevilloise dans le 20e arrondissement de Paris. Et ces jeunes gens, tous étaient des artistes, écrivez-vous. D'ailleurs, j'ai envie de lire cette page où il est question de tous étaient des artistes. Zoé filmait des tas d'ordures. Elle était passionnée par les déchets et parcourait les immenses dépotoirs qui encerclent Paris afin d'y réaliser ses vidéos. Le bison performait la destruction, c'est-à-dire qu'il égorgeait des poulets ou des lapins en public, puis suspendait leurs organes à un mur pour les refaçonner en art. Myriam était peintre. Elle avait décoré le Zorba et d'un geste timide désigna les murs. la frise d'animaux courant sur les parois, c'était elle, des buffes, des loups, des taureaux, des bouquetins, des antilopes, et des fauves hallucinées de frayeur, nouées dans un chaos de pigments ocre et noir, où le vert menaçait, nauséeux, comme de la vase. Bon, j'arrête là ma lecture, mais on voit qu'il y a pas mal d'ironie dans ce panorama que vous faites, mi-figue, mi-raisin, de l'art contemporain. Ce qui m'amène à vous poser ma première question. Quelle place l'art contemporain occupe dans vos préoccupations là? Apparemment, ce n'est pas la première place. Et est-ce que l'art contemporain intervient dans votre propre démarche d'écrivain?
Alors, ça dépend de quel art contemporain. C'est vrai que les phrases que vous avez citées prennent une dimension surironique ce soir. Et je n'en suis pas mécontent, puisqu'on essaye d'inventer une parole proche du silence dans un lieu voué au chaos, où je n'entends pas grand-chose d'ailleurs. Mais l'art contemporain me passionne et disons que les derniers livres que j'ai pu écrire, Yann Karski et Les Renards Pâles, sont aussi des dispositifs d'art contemporain. En tous les cas, ils sont tributaires et peut-être héritent-ils pour une part de travaux comme ceux de Boltanski ou d'autres artistes. Et ce sont des dispositifs.
D'ailleurs, c'est le dispositif qui a intéressé Arthur Nozissel, qui a proposé il n'y a pas très longtemps une adaptation de votre livre, une adaptation scénique de Yann Karski.
Absolument. Je crois que ce qui l'intéressait dans ce livre, c'était avant tout le fait que la question de la vérité, qui était posée par un roman comme Yann Karski, se désarticulait de manière hétérogène En plusieurs genres. Je pense même qu'il y a, puisque je parle de vérité, une des vérités possibles à venir des formes littéraires tient vraiment à l'hétérogénéité. Je pense comme ça ce soir à l'improvisate, si je puis dire, à un roman de Christa Wolf qui s'appelle Cassandre, qui pour moi est un des chefs-d'œuvre du XXe siècle. Et j'ai conçu Les Renards Pâles aussi comme ça, à partir d'une césure. Donc une partie et une autre qui ne sont pas forcément dans un rapport de continuité narrative évident, mais qui vont chercher à se relancer. Francis Ponge avait une expression que j'aime beaucoup, il parlait de provision de relance concernant la poésie. Et je pense que essayer de trouver une forme pour faire entendre à l'intérieur de cette forme une voix, ce qu'on essaye aussi de faire ce soir, tant bien que mal, ça relève peut-être aussi d'une recherche concernant la cassure.
La cassure, donc, toujours une prise de risque, d'affrontement des dangers. Et si je parle de risque à l'instant, c'est pour rappeler tout de même que dès 1997, avec Frédéric Badré et François Mironis, vous avez créé une revue qui affichait cette couleur, le risque, ligne de risque, en suggérant qu'il fallait vivre dans l'élément du risque, c'est-à-dire, au fond, ne pas dissocier l'écriture et la vie. C'est le même combat, où j'ai envie de dire la même guerre du goût, pour reprendre la formule de Philippe Solers, parce que ce n'est pas un nom qui fait tache dans le décor quand on parle de vos ouvrages, Yannick Enel.
Oui, il s'agit au fond de poursuivre une tradition. Vous parliez de l'écriture et de la vie, de la coïncidence entre les deux. Il s'agit de poursuivre une tradition qui vient des romantiques allemands, une tradition encyclopédique. Je pense que le lieu même où la littérature vient possiblement s'inscrire, c'est un lieu qui ferait coïncider la poésie et la pensée. J'entends par poésie le fait de mettre en phrase une expérience. La poésie, ça peut se faire en prose. Poésie et pensée, la cassure, la césure plutôt, entre les deux, et la coïncidence en même temps.
Chez Solers, vous avez publié 5 romans avec les Renards Pâles. 5 romans qui ont tous un petit air de famille, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a le même personnage, Jean Deschelle, qu'on retrouve dans les Renards Pâles. On y marche beaucoup dans vos romans. On y rompt ses attaches avec la société en laissant libre sa solitude et sa conviction de s'être retiré dans une réserve de vérité. Vous en parliez tout à l'heure à propos de Jan Karski.
Oui, je pense que l'expérience que mène ce personnage, Jean Deschelle, que j'ai poursuivi à travers une dizaine d'années, à travers plusieurs romans, est fondamentalement une expérience de la solitude. Ce n'est pas forcément une expérience du retrait, mais le point que cherche ce personnage, c'est un point qui peut-être n'existe pas, mais qui en tous les cas m'anime. C'est ce point où la société n'a pas prise sur nous. Donc au fond, la quête de cet homme est à la fois d'ordre poétique, mais, et je l'ai découvert au fil de l'écriture ces dernières années, est aussi relève de la politique. La solitude est peut-être, en tous les cas sa solitude à lui, est peut-être politique.
De ce point de vue, le lecteur des Renards Pâles est mis dans de bonnes mains puisque sur le seuil du livre, pour l'accueillir, se trouve Walter Benjamin, déjà présent dans Cercle, d'ailleurs. Donc, une vieille connaissance, lui aussi, dont vous avez d'ailleurs préfacé l'an dernier sur la photographie. Et la phrase que vous avez retenue pour l'exergue des Renards Pâles, c'est « Vaincre le capitalisme par la marche à pied ». Donc, on peut en déduire que la flânerie, telle que Benjamin la pratiquait, est l'avant-garde de la politique.
C'est vrai que cette phrase est merveilleuse, « Vaincre le capitalisme par la marche à pied », parce qu'à la fois, elle peut paraître une blague, elle peut paraître complètement farfelue. Et je pense que dans l'humour pas assez souligné, à mon avis, de Walter Benjamin, il y a effectivement un programme désespéré, puisque l'équivalence entre le capitalisme et la marche à pied semble presque dérisoire, au fond. Mais à travers cet humour, il y a un défi qui est lancé à, je dirais presque de manière messianique, au temps lui-même. À force d'endurer, à force d'endurance, à force de marche à pied, peut-être qu'on vaincra des démons, peut-être qu'on vaincra ce qui semble englober et empocher la planète, peut-être au fond que la flânerie sera le dernier art.
Le maître mot, le premier mot du roman, c'est l'intervalle. L'intervalle, qui est un mot très fort parce qu'il joue à la fois sur l'espace et sur le temps.
C'est vrai, j'avais même pensé, enfin en tous les cas au début, quand j'écrivais la première partie de ce livre sans trop savoir où il allait aller, je m'étais habitué à appeler cette partie l'intervalle, et peut-être le livre également. Pour moi, l'intervalle, c'est d'abord un lieu insituable dans l'espace où la pensée est possible. En l'occurrence, pour ce personnage, c'est dans sa voiture. Cet intervalle, c'est peut-être aussi la distance bénéfique qui nous sépare disons des ordres que la société semble nous donner à chaque instant. Et c'est aussi pour moi une sorte d'injonction esthétique, enfin l'intervalle, c'est-à-dire couper court au romanesque.
Là, vous avez marqué un intervalle, d'ailleurs, pour chercher vos mots, votre pensée. C'est vrai que du jour au lendemain est réputé pour ses silences. Ce soir, les silences sont impossibles. Ils sont animés de beaucoup de bruit parasite. Alors, pourtant, dans le livre, le narrateur, donc ce personnage que vous avez nommé Jean Deschel, lui a une idée assez précise de la chose. Il dit que c'est une bouffée de joie, donc il prononce le mot joie, et en même temps, une déchirure.
Oui, c'est comme ça que je conçois la... pour le dire avec des grands mots, le rapport avec l'être, qui ne relève pas d'un repli sur soi, mais d'une exposition. Une exposition à tout ce qui vient. Je pense que cet homme essaye de se tenir sur une ligne où il serait possible d'être disponible à ce qui vient, où il serait possible peut-être d'écouter à travers le chaos ou par-delà le chaos, par-delà les faux mots, d'écouter et d'entendre ce qu'il y a en dessous, ce qui vient d'une, je dirais, d'une mémoire qui ne lui appartient pas.
Qui est-il vraiment, cet homme? Vous le disiez, il vit dans sa voiture, où il n'a plus de maison, parce qu'il n'a plus les moyens de payer son loyer, il n'a plus de travail. Donc voilà, il a décidé de s'installer rue de la Chine, à Paris, dans une R18, un break ou une berline?
Un break.
Un break, oui. Un break R18, qu'un ami, je crois, lui a prêté. La R18, d'ailleurs, est une voiture éminemment littéraire, car c'est elle qu'on trouve presque à toutes les pages des deux très gros volumes de carnet de notes de Pierre Bergoglio. Je ne sais pas si vous avez...
Non, non.
Bon, bref. Donc, vous voyez, elle a ses titres de noblesse. Ouais. Et cet homme-là, il est un peu comme le Rimbaud, criant « et libre, soit cette infortune ».
C'est précisément de ça dont il s'agit, effectivement. L'infortune n'est pas un obstacle. Dans l'expérience de Jean Deschel, la détresse n'a pas le dernier mot. Elle est... je ne sais pas si on peut dire qu'elle est traversable, mais elle est renversable. Jean Deschel est quelqu'un qui, en tous les cas tel que je l'ai inventé, est quelqu'un d'absolument étranger au discours politique. C'est quelqu'un qui ne sait même pas, le jour où commence le livre, qu'il y a une élection présidentielle en France. Sa distraction et son désœuvrement est tel qu'il vit dans un désert.
Ouais. Alors, il ne le sait pas, mais pourtant, on lui demande pour qui il a voté, et sa réponse n'est pas anodine. Il dit pour Max Stirner.
Effectivement, c'est-à-dire pour l'anarchie. Dans sa réponse, il n'y a pas tellement de provocation, mais il y a un dépit politique qui, je pense, n'est pas seulement le sien. Il y a une sorte de savoir désolé sur la décomposition du politique en France, et en tous les cas une exaspération lorsqu'on lui pose la question, lorsqu'on l'assigne à dire pour qui il a voté et qu'on espère qu'il a voté, une exaspération vis-à-vis de ceux qui essayent d'habiter la politique à travers du faux-semblant. Là, en l'occurrence, c'est à une jeune socialiste militante, très exaspérante, qu'il répond. Elle lui dit même que ceux qui ne votent pas, on devrait les condamner pour crimes contre la démocratie. Donc effectivement, la question de l'abstention Jean Daichel la prend très au sérieux. Il ne s'agit pas seulement d'une abstention, une petite abstention vis-à-vis du jeu démocratique parlementaire français, mais d'une abstention, je dirais plus métaphysique, qui fait de, qui aggrave sa solitude.
Il n'a plus que cette voiture, et dans cette voiture, une radio. La radio, c'est ce qui reste quand on n'a plus rien.
C'est possible. Il y a quand même dans la boîte à gants, il y a En attendant Godot. C'est peut-être le dernier texte qui reste quand on a
lu tous les livres.
Quand on a lu tous les livres. Et que la chair n'est peut-être pas encore assez. Pas encore trop triste. Mais oui, la radio, pour moi, c'est une figure absolue de la solitude. Je pense qu'on écoute la radio seul. Même quand on est à plusieurs, au fond, c'est. Même quand on est à plusieurs à écouter la radio, il s'agit de solitude et d'une multiplication de la solitude, presque d'une politique des solitudes. C'est le sujet même de ce livre, d'ailleurs. C'est l'itinéraire d'un homme qui, à travers sa solitude, à travers le sérieux qu'il met à être seul, va découvrir que cette solitude mène à quelque chose d'insurrectif. Et que peut-être à travers sa manière de dire je ou de ne plus rien dire, il y a un nous derrière.
Comme on va le voir d'ailleurs dans la suite du roman. Sur sa radio, je le soupçonne d'écouter France Culture. Hein, vous me direz si je me trompe, car il tombe en écoutant sur un jeune penseur, un intellectuel, qui explique qu'il ne reste rien d'autre aujourd'hui que la crise, et que la crise serait l'autre nom du monde qui vient.
Effectivement, je pense que ce qui a lieu, disons dans le ravage non seulement politique mais existentiel, relève du crack. J'emploie ce mot qui est affecté à la dimension économique en général, mais Jean Daichel, à travers les histoires qu'il entend, parce que c'est quelqu'un qui écoute, il parle assez peu, à travers les histoires qu'il entend, il devient détenteur d'une sorte de témoignage général, de panorama sur le crack qui affecte toutes les vies et qui voue la vie en France à une sorte d'invivable.
Il écoute la radio, les voix de la radio, mais il n'y a pas que les voix de la radio qui traversent votre livre, Yannick Hennel. Il y a la voix de Rousseau, quelque part, et surtout celle de Marx.
C'est-à-dire que j'ai pris l'habitude, c'est peut-être un travers ou une mauvaise habitude, de mettre en scène dans les aventures que je raconte à travers mes romans, mettre en scène les lectures des personnages. Donc quand ils lisent, bien je donne à lire ce qu'ils lisent. La lecture est vraiment un acte, surtout en ce qui concerne Jean Daichel, qui n'occupe plus que des lieux gratuits. C'est un homme qui n'a pas d'argent et qui donc passe ses journées à la piscine ou à la bibliothèque, qui sont, comme vous l'avez remarqué sans doute, les derniers lieux gratuits dans les villes occidentales. Et il y a la lecture. Donc effectivement, comme sa déambulation se passe dans le 20e arrondissement de Paris, il retombe avec joie sur les rêveries du promeneur solitaire, puisque la deuxième rêverie raconte le moment où Rousseau, à travers un accident à Ménilmontant, qui était à la campagne à l'époque, est renversé par un chien, le chien danois, comme il dit. Et et découvre à travers cet accident et par-delà la détresse, comme je le disais tout à l'heure, par-delà la souffrance occasionnée par le choc, découvre ce que Jean-Christophe Bailly appelle le sentiment de l'existence. Il y a Montaigne aussi, mais on pourrait dire que c'est la première expérience explicitement existentielle dans la littérature française. Et Jean Daichel, le personnage des Renards Pâles, est quelqu'un qui, en lisant Rousseau, sent qu'il est l'héritier de cette extase, de manière un peu énigmatique. Mmh.
Ensuite, il va lire la guerre civile en France, et ça tombe bien puisqu'il se trouve dans le 20e arrondissement de Paris, qui a été l'un des principaux théâtres de la Commune.
Oui. À travers quelques aventures un peu, disons, rocambolesques, il rencontre une femme.
Ouais, la reine de Pologne, c'est comme ça qu'on l'appelle.
On l'appelle la reine de Pologne.
Et c'est étrange, hein, parce que la Pologne est tout de même très présente dans vos livres, pas seulement dans celui-ci.
Bien sûr. Pour moi, c'était un moyen de ne pas encore en finir tout à fait avec Jan Garski, si tant est qu'on puisse en finir avec une figure aussi importante. C'était un jeu qui rattachait pour moi la solitude politique polonaise à la solitude politique insurrectionnelle de la Commune, puisque ce personnage de la reine de Pologne est quelqu'un qui a pour ancêtre l'un des chefs militaires de la Commune, qui était un Polonais, puisque l'insurrection communarde est une insurrection internationale. Et cet homme s'appelait Valéry Wroblewski. Il y a sa tombe au Père Lachaise devant le mur des fédérés. C'est elle qui va transmettre au narrateur ce livre, La guerre civile en France, de Marx.
Et le narrateur va finir par faire l'amour avec cette femme au cimetière du Père Lachaise. Ça fait penser un peu à la fin du Bleu du ciel,
c'est bataille. Très judicieux de votre part.
Sauf que le cimetière était le cimetière de Trèves, oui. qui est la ville natale de Karl Marx. Bataille, quand il a écrit ça, c'était en 1935, il voyait se profiler le nazisme, la peste noire. C'est pas le cas de votre personnage, pour qui, au contraire, le mot « révolution » semble avoir un avenir.
C'est-à-dire que le mot « révolution » au sens strict signifie le retournement complet de tous les rapports de force. L'itinéraire de Jean Daichel le mène d'un sentiment antipolitique, si je puis dire, ou d'un dégoût de la politique, à une reconquête possible à travers des inscriptions qu'il voit sur les murs, inscriptions qui appellent à un défi envers la société, à travers les rencontres qu'il fait. Et oui, ce livre, au fond, relève d'une proposition, enfin d'une hypothèse ou d'un espoir, tout simplement d'une espérance que la mort du politique qu'on vit chaque jour n'est que la condition de possibilité d'un renouveau, d'une reconquête, mais qui en passerait par une redéfinition complète du mot révolution.
C'est ce que vous faites un peu dans la deuxième partie du livre, disons la deuxième période, dont le narrateur devient multiple. Le « je » laisse la place au « nous ». Ce sont les renards pâles qui prennent enfin la parole.
Oui. Effectivement, je parlais tout à l'heure de césure et de dispositif. Le livre est disposé à partir d'une dissolution de l'identité. Jean Daichel ne peut plus dire « je » à partir du moment où il entre dans un processus qui va être celui qui va le mener à offrir sa parole à d'autres. La deuxième partie est racontée, si je puis dire, ou plutôt proférée, puisqu'il s'agit d'un manifeste. Elle est proférée à la première personne du pluriel. Ces renards pâles sont constitués de tous les personnages qu'on a rencontrés dans la première partie, mais ils sont masqués, de sorte qu'on ne sait plus s'ils sont des hommes ou des femmes, qu'on ne sait pas non plus s'ils sont noirs ou blancs. Et surtout, ils sont composés de gens qui sont ce que j'appelle la communauté des sans, qui sont des sans-abri, des sans-emploi, des sans-papiers, des gens qui finalement se mettent à attendre Godot à leur façon, sauf que ce Godot va venir de très loin et de très près à la fois, c'est-à-dire des falaises de Bandiagara, le pays des Dogons au Mali, et en même temps Belleville et Montreuil, c'est-à-dire les lieux, j'allais dire Dogons, les lieux des Maliens à Paris. Toute la deuxième partie est une tentative à travers un manifeste narratif qui est aussi une sorte de déchaînement poétique par le chant, de faire coïncider, enfin de donner une noblesse aux immigrés africains.
Et vous pensez que c'est la poésie qui peut mettre le feu aux poudres ?
C'est une question qui est tellement grande que j'aurais honte d'y répondre de manière, que ce soit par l'affirmative ou la négative. Mais en tous les cas, il me semble que l'absence de la poésie rend impossible le passage à quelque explosion que ce soit. Je pense même que l'absence de la poésie est programmée. Et c'est pourquoi le passage à l'insurrection est impossible. L'absence de poésie est programmée dans nos sociétés. C'est elle qui est visée. C'est pas le soulèvement populaire qui est visé vraiment. Parce que ce soulèvement populaire, tous les gouvernements savent qu'il est quasiment impossible. En revanche, la seule mèche possible à une époque où la défaite a sanctionné presque toutes les tentatives politiques, la seule mèche, et là je peux dire que ça relève de la croyance chez moi, je n'ai pas honte de ce mot, la seule mèche c'est la poésie, oui. La poésie étant la chose même qui soulève une vie après l'autre.
Le roman de Yannick Hennel est publié chez Gallimard. Du jour au lendemain, Sandrine Bréchaud, Loïc Duros, Mathieu Leroy, Anne Franchini, Didier Pinault, Alain Winston. Bonsoir.